Amen. Voilà, j'ai eu à cœur de vous parler d'un thème un peu particulier avec plusieurs passages de la parole de Dieu. Vous avez vu le titre? J'ai touché trop vite ou? C'est à sa droite, quoi. Voilà. Vêtu de haillons, j'ai mis un point d'interrogation, hein. Il y a une formule que certains emploient dans la prière, je dis jamais amen. Seigneur, on vient devant toi comme des mendiants. Non, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des fils et des filles de rois. Alléluia. Et les fils et les filles de rois, eh bien, ils ont ce qu'il faut pour vivre dans tous les domaines. Et nous sommes fils et filles du roi des rois, et nous avons plus que même ce que nous pensons, que ce que nous imaginons, parce que Dieu est fidèle, et nous avons en lui un trésor extraordinaire. Amen. Alors le texte d'introduction, c'est Matthieu chapitre 9. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. » Jésus ici, à la fois répond à une forme d'hypocrisie, hein, les pharisiens, hein, pourquoi est-ce que nous on jeûne et puis pas vous? On essaye parfois de nous mettre mal à l'aise, de nous accuser, de nous culpabiliser, parce qu'on fait pas les choses comme les autres, mais c'est normal de pas faire les choses comme les autres. Parce que nous sommes un peuple à part, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes, notre royaume, il n'est pas d'ici-bas, il est au ciel, et notre roi, eh bien, nous prépare une place. Mais Jésus aussi, dans ce texte, il nous donne l'espoir d'un changement total et d'une plénitude. Amen. Le Seigneur nous change, et pas qu'un petit peu. Il n'apporte pas seulement des améliorations dans nos vies, mais il nous change complètement. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Amen. Le Seigneur met pas un tuteur à la plante qui a été abîmée, cassée, mais il met une nouvelle graine pour qu'il y ait une nouvelle plante qui pousse. Et c'est ce que nous vivons, ce que nous sommes appelés à vivre dans le Seigneur. Alors, quelle est, comme disait notre frère tout à l'heure, hein, quelle est notre attitude dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que nous venons y chercher? On va lire un autre texte qui concerne les Gabaonites. Vous vous rappelez, pour ceux qui lisent la Bible, hein, les Gabaonites, Josué chapitre 9, versets 3 à 16, les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. L'adversaire, c'est le rusé. J'allais dire, soyons plus rusés que lui. Parce que parfois on dit, il est plus fort que nous. Oui, mais nous connaissons et nous avons en nous celui qui est plus fort que celui qui est plus fort que nous. Alléluia. Donc ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. C'est les vêtements dont parlait Jésus, hein, tout à l'heure. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon et Og, roi de Bazan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, « Nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. » Voici notre pain, il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leur provision, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Alors ce texte nous apprend beaucoup de choses. D'abord qu'on peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Ce que l'on fait dans le secret, le Seigneur le sait. Le Seigneur le voit. On ne peut pas le tromper. Donc soyons vigilants, soyons honnêtes et soyons prompts à vouloir la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Ce texte nous apprend aussi, c'est ce qui est dit à la fin, qu'il faut chercher la face de Dieu avant de prendre une décision. Importante, hein. Bien sûr, s'il faut aller faire les courses, c'est pas la peine de demander au Seigneur de quelle couleur on va acheter tel ou tel vêtement, de quel bon. Non, mais on a besoin de chercher la face de Dieu parce que il y a des décisions qui ont de lourdes conséquences. Et le Seigneur sait les choses. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne voyons pas toutes les conséquences de nos décisions. Seigneur, aide-nous. Le peuple n'avait pas consulté l'Éternel et on connaît ensuite les conséquences. Alors, il parle d'abord du pain. Ah pardon, j'ai oublié la fin du texte. Hein. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Donc, le pain. Est-ce que notre pain, il est chaud ou sec? C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Bon, bien sûr, avec le pain sec, on peut faire du pain perdu. Mais c'est quand même meilleur de manger du pain qui est frais. Alors il est chaud, il est frais, ça c'est la langue française. Hein, mais du pain qui est bon. Notre pain était chaud et il est devenu sec et en miettes. Et pour moi ça me parle parce que le pain, pour moi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Comment est-ce que nous la prenons en considération? Est-ce que elle est encore comme du pain frais? Ou est-ce que nous l'avons tellement méprisée qu'elle est devenue pour nous du pain rassis? Le Seigneur a toujours, j'emploie souvent cette expression pour reprendre chaud et frais, hein, les fours du Seigneur sont toujours chauds pour nous donner du pain frais chaque jour. Amen. Et le Seigneur veut renouveler sa parole en nous. Il veut nous aider à comprendre davantage ce qu'il nous dit dans sa parole, à la faire nôtre, à ce qu'elle nous imprègne, à ce qu'elle soit tellement partie prenante de notre vie, eh bien que tout ce qui est écrit, ça s'accomplisse pour nous. Que nous ne soyons pas arrêtés, bousculés par les mensonges de l'adversaire, mais qu'en croyant à la vérité, nous soyons réellement libres et que rien ne vienne nous déstabiliser. Et quand ça nous arrive, que vite nous nous raccrochions au Seigneur. Hein, depuis quelque temps, si je lève la tête trop vite, faut que je me raccroche à quelque chose. Bien, il y a des fois, il y a des circonstances, il y a des paroles peut-être, il y a des nouvelles qui peuvent nous inquiéter, nous déstabiliser, mais le Seigneur est là et sa main est tendue vers nous pour que nous puissions toujours la saisir et être forts, tenir debout. Alléluia. Ne nous étonnons pas de certains problèmes qui subsistent si nous méprisons la parole de Dieu. Mais le Seigneur nous rappelle ce matin que lui, il est le véritable. Il est écrit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Donc si je suis pas d'accord avec lui, de toute façon c'est lui qui a raison. Donc je n'ai pas le choix que de me mettre d'accord avec lui. D'autant plus que c'est par amour qu'il me dit les choses. C'est par amour qu'il agit dans ma vie. Parce qu'il sait ce qui est bon pour moi. Amen. Alors Seigneur, ta parole aurait-elle changé de saveur pour moi? Oh non, Seigneur, je veux la prendre comme du pain frais. En France, on sait ce que c'est que le pain. Dans d'autres pays, ils n'en mangent pas ou pas le même, mais on sait ce que c'est et on s'en lasse pas finalement. On a un gendre, lui, s'il n'y a pas de pain à table, même avec les patates, ça va pas. Hein. Donc voilà, mais Seigneur, s'il n'y a pas ta parole dans ma vie chaque jour, eh bien, ça ne va pas non plus. Alors ensuite, il y a les outres à vin. J'ai eu du mal à trouver des outres déchirées, alors j'ai pris ce petit cette petite illustration. Est-ce que nos outres sont neuves ou déchirées? J'allais dire oui, c'est vrai, en France, on a aussi pas mal de régions où on produit du vin. Mais vous savez que dans la parole de Dieu, le vin, c'est le symbole de la joie. Alors j'ai pensé à la joie. La joie du salut, la joie du ciel, la joie de la communion avec Dieu, la joie de la marche avec Dieu, la joie du service pour Dieu. Est-ce que notre joie, elle est toujours fraîche? Est-ce qu'elle est toujours neuve? Est-ce que je peux dire, Seigneur, je viens dans ta maison avec joie? Seigneur, je te sers avec joie. Seigneur, il y a la joie dans ma maison, dans mon cœur, dans ma tête même. Personnellement, bon, il y a quelques dimanches de cela, à Muret, je prêchais sur la joie et je disais que très souvent, dans ma prière, je dis, Seigneur, renouvelle la joie dans le cœur de tes enfants. Parce que là encore, il n'y a pas grand-chose ici-bas qui soit fait pour nous donner la joie, pour que notre joie se développe, pour que, ben oui, on peut parler de demeurer éternellement, mais il y a une musique de Bach hein, qui dit « Jésus, que ta joie demeure ». C'est le titre de la mélodie. Bien Seigneur, que ta joie demeure dans ma vie. Je veux pas essayer de raccommoder la joie. Pas, je veux pas du factice, des artifices humains. Je veux pas, Seigneur, que j'ai besoin toujours des bulles du champagne pour être dans la joie. Enfin, champagne ou autre. Hein. De faire la fête. Je disais à Muret que j'avais appris au temps où il y avait Coluche qu'il dépensait, alors c'était les francs, il y en a qui n'ont jamais connu les francs, mais il y a de nous, hein, que Coluche dépensait 5000 francs chaque jour pour ne pas être tout seul et pour pas être dans la tristesse. C'est terrible ça, des artifices. Il faut toujours faire la fête pour être dans la joie, mais la fête, ça devrait être dans nos cœurs chaque jour. Parce que nous connaissons le Seigneur, parce que le Seigneur a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors Seigneur, si j'avais besoin de raccommoder ma joie, Seigneur, aide-moi à retrouver le chemin de la source où elle coule abondamment. C'est toi qui es ma joie. La joie de l'Éternel sera votre force. Bon, je prêche pas seulement sur la joie, donc je vais pas trop développer, mais il y a tellement de choses dans le Seigneur pour nous donner la joie. Seigneur dit, je veux que ma joie soit en vous afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. C'est vrai que la joie de ce monde, elle est éphémère. Il y en a, merci Seigneur, pour les joies humaines. Mais elles sont éphémères. Alors que la joie comme je disais tout à l'heure, du salut, de la communion avec Dieu, de la marche avec Dieu, du service pour Dieu, notre participation, de notre appartenance à l'Église du Seigneur Jésus, elle ne doit pas ternir. Amen. Ensuite, les sandales. Alors, c'est pas les sandales de l'époque de Jésus, hein. Mais comme nous sommes concernés, soyons modernes. Alors, les sandales, est-ce qu'elles sont neuves ou alors usées et recousues, comme ils l'ont dit? Et vous savez à quoi ça fait penser, les sandales, hein? Le zèle, puisque le Seigneur dit « Mettez à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'Évangile ». Amen. Le zèle. Alors, quand j'ai tapé zèle sur Google, il n'y avait que des images sur le zèle de l'Éternel. Ça doit pas exister ailleurs, le zèle. Ça doit pas exister ailleurs. Le zèle, être zélé, le zèle de l'Évangile, le zèle du premier amour. Amen. Le temps passe vite, on est actif pour Dieu. Est-ce que on aurait perdu le zèle? Est-ce qu'on n'aurait plus l'envie de servir le Seigneur? Ils disent nos chaussures se sont usées par l'extrême longueur du chemin. Est-ce que quelqu'un serait lassé? J'allais dire, c'est pas un péché d'être lassé, mais c'est un péché de rester dans la lassitude. Parce qu'auprès de Dieu, nous pouvons retrouver le zèle. Seigneur, je veux pas rester. Les disciples, Jésus les appelle, il est dit, ils se levèrent et le suivirent. On peut pas rester assis spirituellement. Seigneur, je veux retrouver le zèle. Je veux retrouver le zèle du premier amour. Je veux retrouver le zèle du début de ma conversion. Je veux retrouver le zèle, Seigneur, de mon service pour toi. Parce qu'on est heureux quand on sert le Seigneur. Vous savez, il y a un petit chant aussi, « Quel bonheur d'être tout à Jésus ». Je ne sais pas si vous le chantez encore, si vous en souvenez. « Quel bonheur d'être tout à Jésus ». Et chaque fois, ou presque chaque fois que j'ai conduit dans ce chant, je dis, bien, parfois les croyants disent, mais pourquoi est-ce que je suis pas aussi heureux qu'un tel, qu'une telle? Mais ce chant dit bien les choses. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Parfois on n'a pas tout donné au Seigneur. On n'est pas complètement au Seigneur. Il y a encore des petits trucs, on dit, bon non, ça c'est mon domaine, ça me regarde. Mais il faut pas s'étonner à ce moment-là qu'on n'ait pas la joie complète. Seigneur, je veux que tout soit à toi. Et comme disait un jour, j'ai entendu le frère Gilbert Rickenbach, pour ceux qui le connaissent, le dire, quand on a tout donné, on n'a plus rien à perdre. Amen. Et au contraire, quand on a tout donné au Seigneur, on a tout à gagner. Parce que la Bible me dit qu'il n'y a personne qui est abandonné, qui est donné, qui ne retrouve au centuple, et puis la vie éternelle. Amen. Nous avons tout dans le Seigneur. Alors oui, Seigneur, si mes sandales se sont usées, s'il a fallu les recoudre, eh bien, je veux retrouver mon zèle. Je veux reprendre des sandales neuves. Parce que, vous savez, quand on marche avec des chaussures qui sont pas adaptées, quand on souffre des pieds, il y a tout le corps qui souffre. Hein. Demandez au podologue, il vous dira que il y a plein de choses qui se produisent, ça joue sur la colonne vertébrale, ça joue sur plein de domaines, tous les domaines même de notre corps. Ben oui, ça fait 66 ans qu'ils me supportent les miens. Oui, et les vôtres. Ben oui. Ouais. Mais si on a des chaussures adaptées, si on a un zèle qui est réel, alors c'est vrai qu'on peut marcher, qu'on peut courir même. Amen. Alléluia. Et puis la dernière chose, il parle des vêtements usés. C'est pareil, hein. Vêtements neufs ou en haillons. Qu'est-ce que vous préférez, être habillé comme les premiers ou comme l'autre? Ça fait pas envie, hein. Bon, prions pour ceux qui n'ont pas de quoi vivre. Prions pour ceux qui sont errants dans la rue. Prions et parlons-leur du Seigneur quand nous en avons l'occasion pour qu'ils trouvent dans le Seigneur toute la provision à chacun de leurs besoins. Mais nous savons bien que le vêtement dont nous parle la parole de Dieu, c'est le salut. Amen. Le Seigneur nous a revêtus des vêtements du salut, revêtus de cette robe blanche qui nous permettra d'être assis à la même table que lui, au repas des noces de l'agneau. Amen. Est-ce que notre vêtement du salut se serait usé? Est-ce que nous aurions perdu certaines assurances que le Seigneur nous a données? Bien, retrouvons la fidélité dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, dans l'assiduité à la vie de l'Église, et puis cette assurance, cette joie du salut, nous allons la retrouver. Amen. Parce que l'adversaire fait croire parfois aussi que nous avons perdu notre salut. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas perdre le salut. On le voit dans la parole de Dieu, certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais si nous restons près du Seigneur, il n'y a pas de raison. Si nous croyons dans le Seigneur, il n'y a pas de raison. Et Seigneur, je veux changer mes vêtements usés. Je veux laisser mes haillons. Vous rappelez le fils prodigue, hein? Fils prodigue? Eh oui. Et on va en parler tout à l'heure. Bah, oui, donc je ne parle pas tout de suite, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Alors, ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est changer tout le vêtement. Pas seulement un petit peu. Pas seulement une pièce de vêtement. Mais changer tout l'habit. C'est la lecture que nous avons faite tout à l'heure. Et quand les disciples de Jean donc demandent pourquoi jeûnons-nous alors que vous jeûnez pas et tout ça. Et puis dans le texte, on voit que c'est terrible ça. Les disciples de Jean s'assimilent aux pharisiens. Pourquoi nous et les pharisiens on jeûne? Où? Vous voudriez vous assimiler aux pharisiens? Vous voudriez vous mettre en parallèle avec les pharisiens, mais non, parce que ils sont traités d'hypocrites, ils sont traités de tout un tas de choses, hein, hypocrites. Ils disent je jeûne deux fois la semaine. Ah oui, le pain, ils ne le connaissaient pas tous les jours, hein. Je jeûne deux fois la semaine. C'est bien de jeûner. Je me rappelle un jour, nous étions, ça fait bien des années de cela, dans une église, et puis on avait organisé un repas d'église. Et puis je vois un frère qui part, alors je lui dis « Ah frère, vous restez pas avec nous pour le repas ?» Ah, il dit « Non, moi je vais jeûner. » Ben je lui dis « Excusez-moi, mais votre jeûne, il est charnel. Hein. » Parce que quand l'église organisait un jeûne, il n'est jamais là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et puis, bon, libre à lui de le faire, mais la façon dont il l'a dit, fièrement, comme pour culpabiliser les autres, c'était terrible. Hypocrite, dit le Seigneur et les disciples aux pharisiens. Je jeûne deux fois. Ils n'ont pas compris le vrai sens du jeûne. Ils n'ont pas compris, hein, relisez Isaïe 58, où il est parlé du vrai jeûne. Détache les liens de la servitude, donne à manger à celui qui a faim, etc., etc. Ils veulent quelque part, j'ai mis entre guillemets, rapiécer leur piété. La piété, c'est une grande source de gain. Oui. La piété, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, notre assiduité à venir dans sa présence, notre vie chrétienne. Il montre, mais c'est du faux semblant. Il montre, mais c'est pas du réel. C'est ce qu'on appelle du toc. Ah oui? Ce que Dieu nous donne, c'est du réel. C'est du concret. C'est du solide. Le Seigneur, bien avant les hommes, a été adepte du développement durable. Hein. Et oui, parce que ce qu'il nous donne, c'est du solide. Alléluia. Alors, c'est vrai. Alors, remarquons que la déchirure dont il est question ici par rapport aux vêtements pourrait être traduit par schisme, donc séparation. Non, je veux pas que mon vêtement soit déchiré, Seigneur. L'important, c'est d'être avec toi. Et quand je jeûne, c'est d'être avec toi. L'important, c'est pas de sauter un repas. Si on saute un repas et qu'on fait tout un tas de choses, ça sert à rien. Ça, c'est du religieux. Mais si c'est pour prendre du temps pour prier, qu'on dit, ben, au lieu d'aller à table, je vais prier, alors ça va porter du fruit. Amen. Alléluia. Vous rappelez aussi Simon le magicien, il voulait s'acheter les choses, mais non, il n'avait pas compris, et il était en dehors de la réalité. Mais quand le Seigneur parle, il faut que notre être tout entier lui soit donné. Alléluia. Parce que c'est lui qui peut changer et qui peut changer notre vêtement. On a essayé de se changer soi-même, hein. Je le ferai plus. Puis comment est-ce qu'on dit? Chasser le naturel, il revient au galop. Je le ferai plus. Oh, mais je suis fort! Ben oui, mais Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je reconnais que je suis faible, que je peux demander la force au Seigneur et qu'il me la donne. Amen. Alléluia. Et il est question d'un vêtement neuf. Alors, neuf, il y a la notion de quelque chose d'inédit, de quelque chose de nouveau. Et dans le terme, il est question aussi de jeunesse. Alors moi, je peux plus sauter aussi haut qu'autrefois, mais vous m'avez déjà entendu pousser mon cri de guerre, et je disais quand nous étions à Libourne, je disais un jour aux chrétiens, vous commencez à me connaître, je suis un petit peu bizarre. Ça fait 6 ans de ça. Quand je disais, je viens de fêter mes 20 ans pour la 3e fois, mais ici et là, je me sens plus jeune que quand j'avais 20 ans. Amen. Ah, pas ici et là, non. Mais ici et là, je me sens plus jeune que quand j'avais... Et c'est vrai. Et c'est vrai. À 20 ans, enfin, un peu avant, parce que j'ai connu le Seigneur à 18 ans, j'étais vieux. J'aimais m'habiller en sombre. Je me sentais pas du tout à l'aise au milieu des jeunes. J'étais, voilà, je, Bon, c'était bien, hein, je cherchais la compagnie des papis et des mamies, mais maintenant je me sens bien au milieu des jeunes. Et puis à tel point que quand quelqu'un, jeune ou pas, me dit « vous », ça me fait sentir me sentir vieux. Alors je vais vous faire sourire, parce qu'il y a, quoi, 2-3 ans de cela, dans un contexte particulier, on était en train de parler avec plusieurs du tutoiement et du vouvoiement, qui n'a plus du tout la même connotation qu'autrefois. C'est pas parce qu'on dit « tu » à quelqu'un qu'on lui manque de respect. Et puis je disais donc cela, quand on me dit « vous », j'ai l'impression d'être vieux. Et il y a une sœur qui est à peu près mon âge, hein, Christine à peu près, oui, qui me tutoie. Elle me dit « mais vous êtes vieux !» Eh oui, alors Seigneur, je suis peut-être vieux, comme disait toujours Charles Gisquet, la cabane se délabre, mais le locataire va bien. Eh oui, alors que la Bible le dit autrement, hein, alors que notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Seigneur, je ne veux pas une pièce rapportée à mon vêtement, je veux que tout mon vêtement soit neuf. Amen. Alléluia. Alors, revenons-en au fils prodigue. Je ne sais pas si c'est le tableau de Rembrandt, ça, mais enfin, c'est l'image que j'ai trouvée. Le fils prodigue, Luc 15. On rappellera le contexte. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Le fils s'est retrouvé en haillons parce qu'il s'était éloigné de la maison de son père. Et il arrive que nous éloignons de la présence de Dieu, du contexte de familial, de Dieu, de l'Église, et on se retrouve comme en haillons. Mais dès que nous revenons, quelqu'un disait, on ne devrait pas appeler cette parabole la parabole du fils prodigue, mais la parabole du père admirable. Il ne devait pas sentir bon, le fils. Il devait être tout sale, il devait être maigre, et son père l'attendait, et il l'a pris dans ses bras, et il a demandé qu'on lui enlève ses vieux vêtements. Il voulait pas qu'il reste comme cela, parce qu'il était son fils, il était le fils de la maison. Alors c'est vrai que on peut se trouver physiquement dans le bâtiment de l'Église et être très éloigné de Dieu dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre vie. Vous connaissez le texte d'Ésaïe 29. Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Alléluia. Le Seigneur dit qu'il veut revêtir de la plus belle robe. La plus belle robe. Il dit pas aller chercher un vêtement, regarder s'il reste quelque chose dans le grenier. Mais non, non. Chercher la plus belle robe. Le Seigneur a toujours le meilleur pour nous. Il n'a pas dit, bon ben, voilà, je vais le prendre de la famille, il reste un strapontin. Non, non. Viens t'asseoir à ma table. Viens goûter de mes mets succulents. Viens goûter, hein, comme le frère l'a lu dans Ésaïe 55 tout à l'heure. Viens goûter. T'as pas de quoi, mais moi j'ai déjà payé. Autrefois, je disais que le salut était gratuit, je dis plus que le salut est gratuit. Il est gratuit pour moi parce que je peux pas le payer. Mais il a coûté cher au Seigneur. Il a donné son Fils. Il a coûté cher à Jésus. Il a donné sa vie. Il s'est donné tout entier. Amen. Alors, je veux pas honorer le Seigneur des lèvres, mais je veux que la plus belle robe soit mon partage. Le fils prodigue, il reconnaît ces choses, il fait demi-tour et il revient, ses haillons sont enlevés. C'est l'important, hein. Notre parcours est différent. Notre parcours pour venir au pied de la croix, notre parcours depuis que nous sommes passés par la croix, mais peu importe. L'important, c'est que quand nous en avons besoin, que nous rentrions à nous-mêmes, que nous nous examinions nous-mêmes, que nous fassions demi-tour, que nous revenions vers le Seigneur, pour que nos haillons soient enlevés et pour que nous soyons revêtus de la plus belle robe. Alors, j'en ai pas trouvé d'assez belle. J'ai mis ça, mais j'en ai pas trouvé d'assez belle dans mes recherches. Mais c'est beaucoup plus beau que ça, hein, ce dont nous sommes revêtus. C'est beaucoup plus beau que tout ce qu'on peut imaginer. Dieu nous veut beau pour lui. Vous n'en voyez qu'un qui est beau. Moi, j'en vois plein, là. Ah oui, les prédicateurs, ils sont privilégiés, hein, parce qu'ils sont en face d'une assistance formidable. Alléluia! Eh oui, le Seigneur nous veut beau pour lui, il nous veut dans la joie, il nous veut rayonnant, il nous veut heureux, il nous veut vivant. Amen! Et il répand sa vie en nous. Amen. Et puis une dernière chose, le Seigneur dit qu'il veut faire toute chose nouvelle, qu'il va faire toute chose nouvelle. Alors il y a ce texte, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Alors quelqu'un m'a dit, enfin quelques-uns disent, et puis même moi, hein, bon il y a encore des choses qui sont pas tout à fait devenues nouvelles. Hein. Mais dans le texte grec, le temps du verbe qui est employé veut dire littéralement « toutes choses sont en train de devenir nouvelles ». Pour certaines choses, ça a été coupé d'un coup quand nous nous sommes convertis. Pour d'autres choses, ça prend du temps. Bien Seigneur, tu travailles aussi avec le temps. Tu travailles avec le temps pour moi, tu travailles avec le temps dans ma vie, tu travailles avec le temps pour que je sois beau pour toi. Le Seigneur veut faire toutes choses nouvelles. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles » et il dit « Écris car ces paroles sont certaines et véritables. » Toutes choses nouvelles. Ça sera vrai en ce jour-là. Parce que ce que dit le Seigneur, ça s'accomplit. Amen. Eh bien, plaise à Dieu que ce que Jésus veut faire aujourd'hui s'accomplisse. Il veut faire toutes choses nouvelles pour nous et en nous aujourd'hui. Alors, c'est pas du nouveau pour du nouveau, comme le veut notre époque. Il faut toujours du nouveau, parce qu'on se lasse de ce qui est ancien. Non, c'est pas cela. Mais le Seigneur fait en nous des choses nouvelles parce qu'il sait que c'est indispensable. Là où il sait qu'il y a des choses qui ont besoin de disparaître pour faire place à de nouvelles choses, de nouvelles réalités. Il est dit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ayons un nouveau regard sur les choses d'en haut et sur celles d'en bas. Donne-moi ta vision des choses. Aujourd'hui, on ne sait plus ceux qui ne sont pas au Seigneur, ceux qui ne comptent pas sur lui, ceux qui ne lui demandent pas sa grâce pour voir les choses comme il les voit lui. Eh bien, les gens, ils savent plus. Ils savent plus que penser. Ils savent plus comment se conduire. Ils savent plus que croire, qui croire. Ils savent plus. Mais Seigneur, donne-moi un nouveau regard, ton regard, sur les choses du ciel pour que je m'y attache et sur celles d'ici-bas pour que je ne les laisse pas envahir ma vie comme les épines dans la parabole du semeur. Seigneur, je veux avoir le regard qui vient de toi. Donne-moi un nouveau regard sur les choses. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. C'est cela qui est important. C'est cela qui est important. La Bible dit qu'il n'y aura même plus besoin du soleil le jour ni de la lune la nuit. Lui sera notre lumière. Mais si c'est lui qui est ma lumière aujourd'hui, j'ai pas besoin d'autre chose. Amen. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Ah. C'est intéressant ça, hein? Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est intéressant. Mais ça n'est possible que si les deux premières choses sont possibles. Si je vois bien les choses comme Dieu les voit, et si je fais partie du peuple de Dieu, c'est dans la mesure où les deux premières sont réalisées que mes larmes peuvent être essuyées de mes yeux. Amen. Amen. Donc, en conclusion, nous n'avons aucune raison de rester en haillons. Aucune raison. Aucune raison d'avoir une vie au pain sec et à l'eau. Aucune raison de rester dans la prison, dans la cellule. La porte a été ouverte. Jésus a dit « Tout est accompli ». Et c'est ce qui était écrit sur les portes des geôles quand le prisonnier avait purgé sa peine. Tout est accompli et on ouvrait la porte. La porte est ouverte. On peut jouir de la liberté. Ensuite, n'essayons pas de tromper Dieu, les hommes ou nous-mêmes. Pareil, le Seigneur disait une parabole pour ceux qui se persuadaient d'être justes. Ah oui, on peut se persuader de choses, mais n'essayons pas de nous tromper. Seigneur, par ton esprit, par ta parole, montre-moi là où j'en suis, afin que je sache et que je te fasse confiance pour m'amener plus loin sur ton chemin. Troisième conclusion, il est possible que tout change. Amen. J'ai pas eu beaucoup d'amen. Il est possible que tout change. C'est possible. C'est pas possible que moi je change les choses, mais c'est possible que Dieu change tout. Et je l'ai mis en lettres majuscules. Nous n'avons pas le droit de rester en haillons. Nous avons tout pleinement en lui. J'ai dit trop doucement. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia! 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 Et je voulais absolument trouver une tenue magnifique, mais j'en ai pas trouvé d'assez belle. Alors j'ai mis ça. Voilà, comme ça on voit pas qui c'est. Et puis on se dit, ah ben on se fait beau. On se fait beau pour un jour de mariage. On se fait beau pour un jour d'église. Alors, bon, l'été, je mets rarement de cravate. Hein, même si j'en ai plus de 80 dans la garde-robe. Mais quand c'est le moment où il fait froid, bon, j'aime bien en mettre. Surtout pour venir dans la maison du Seigneur. Mais l'important, c'est d'être beau à l'intérieur. Hein. Et ça se voit à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je peux pas rester en haillons. Je peux aller choisir, j'ai même pas à choisir le costume. Tu m'as déjà acquis ma robe blanche à la croix. Tu as déjà tout accompli pour moi. Ah, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Que, en sortant d'ici, peut-être que si j'en ai besoin, en rentrant chez moi, j'entre dans ma chambre, je me place devant toi et je fasse le point sur ma vie, sur tel ou tel domaine qui ont été évoqués ce matin ou sur d'autres, parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses. C'est le Saint-Esprit qui nous montre les choses. Quand on doit prêcher la parole de Dieu, on dit « Seigneur, donne ton Saint-Esprit pour que même des choses que j'ai pas prévu de dire, je puisse les dire, même des détails. » Parce que quand on prépare un message, bon, on marque les grandes lignes, on marque les versets, on marque les pensées qui viennent quand on le prépare, mais il y a toujours d'autres pensées qui viennent. Amen. Alors je crois que je l'ai déjà fait, mais il y a personne qui est cardiaque? Alors, ben je vous préviens, parce que j'ai envie de pousser mon cri de guerre. Ma femme, elle sait, elle rigole. Hein. D'accord? D'accord? Alors, n'ayez pas peur. Hein. Parce que chaque fois que je le faisais à Libourne, il y a une dame qui sursautait. Merci Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis chacun des tiens. Merci pour ta parole qui est la vérité, pour ton amour pour nous, pour ta compassion, pour ta patience, Seigneur, et pour l'œuvre que tu accomplis dans nos cœurs. Seigneur, bénis celui, celle qui passe par la tristesse à cause d'une circonstance difficile. Bénis celui, celle, Seigneur, qui est dans les problèmes pas possibles, afin qu'il compte sur toi pour apporter la solution. Bénis celui, celle, Seigneur, qui s'est peut-être lassé, découragé, arrêté au bord du chemin. Ta main est tendue pour relever, pour faire tenir debout, pour pousser de l'avant, Seigneur. Bénis ton église ici à Moissac et ailleurs, ceux qui visitent peut-être, qui sont d'autres assemblées. Bénis, aide-nous à être en bénédiction dans notre assemblée, aide-nous à être en bénédiction dans notre quartier, aide-nous à être en bénédiction dans notre famille, auprès des collègues de travail, pour ceux qui sont encore en activité. Béni sois-tu, Seigneur, parce qu'à toi rien n'échappe et tu veux le meilleur pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen.